C'est toujours pour moi un grand plaisir de partir pour le diocèse d'Auch, comme nous le faisons toutes les semaines. Bonjour Père André Meynier.
Et bonjour Philippe.
Merci. Bonjour. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Vous êtes le vicaire général émérite du diocèse d'Auch. Et puis, c'est vrai qu'on discute toujours un petit peu, hein, Père André Meynier. On va rentrer dans les coulisses de notre petite chronique.
Bien sûr,
on se parle régulièrement. Et vous me demandez des fois si on a des nouvelles, si on a un nouvel évêque. Et bien, depuis quelques heures, c'est officiel. Nous avons le Père Jean-Marc Mika qui va devenir Monseigneur Jean-Marc Mika, qui va prendre donc la direction du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et vous le connaissez, Père André Meynier
le... Ah, je le connais. On a travaillé longtemps avec lui dans les services de vocation. Il a été d'abord responsable, pour moi, responsable du service des vocations pour le diocèse de Toulouse, et puis supérieur du séminaire régional où nous avions nos séminaristes d'Auch, ce qui fait que je l'ai fréquenté et j'ai pu apprécier toutes ses qualités d'accueil, de partage, d'ouverture et sa gentillesse, c'est un homme extra. Ça, vous avez le Saint-Père vous a gâté en vous donnant Jean-Marc Mika comme évêque. Vous ne le regretterez pas, certainement. Et vous verrez qu'il est très abordable, très attentif aussi à la vie concrète. Et puis, il est du pays.
Exactement.
Vous aurez un évêque qui a l'accent, peut-être pas si fort que moi, mais à cause de son passage à Paris, peut-être qu'il l'a modifié, ça m'étonnerait.
Non, nous l'avons enregistré, c'est vrai qu'il a un accent d'ici. Il est né dans la Drôme, hein, mais il a fait toute son enfance.
Ça, je savais pas, bien.
Voilà, oui. Il a fait toute son enfance du côté de Saint-Gaudens, pas très loin.
C'est ça, il a vécu dans Haute-Garonne la grande partie de son existence, oui.
Oui, oui, oui.
Et puis alors, c'est un jeune.
Il est sulpicien. C'est quoi sulpicien, Père André Meynier?
Eh bien, sulpicien, c'est une société de prêtres. Ce n'est pas un ordre religieux, c'est une société de prêtres qui est surtout versée dans l'éducation, dans les séminaires, dans l'éducation de prêtres. Mais il déborde aussi cette activité en étant dans les paroisses et en assurant toutes sortes de services. Mmh. Ils sont quand même branchés sur le sacerdoce.
D'accord.
Et alors, Jean-Marc était responsable de l'association des prêtres sulpiciens.
Tout à fait.
Ce sont d'ailleurs des sulpiciens jusqu'à lui. C'était des sulpiciens qui étaient chargés du séminaire de Toulouse. Maintenant, ce sont des prêtres des diocèses environnants, mais... Et lui, il a été le dernier supérieur sulpicien du séminaire.
Mmh, tout à fait. Mais voilà, donc c'est un ami à vous, donc c'était bien de vous faire réagir en tant que diocèse voisin, voilà, donc de la nomination. Père Jean-Marc Mika qui devient Monseigneur, hein, Jean-Marc Mika, son ordination se fera donc le dimanche 29 mai à 15h à la basilique Saint-Pédis à Lourdes et il sera installé le lendemain à la cathédrale Notre-Dame de la Cède, le lundi 30 mai à 18h.
Bien.
Voilà.
Bien.
Voilà
nouvelle,
pour les.
Très bonne nouvelle.
Voilà, je voulais vous faire réagir sur cette nomination puisque vous le connaissiez. Et c'est vrai que des fois, en discutant, nous parlons souvent, nous vous dites alors vous n'avez pas toujours pas d'évêque. Et bien voilà, ça y est, le pape François a désigné un nouvel évêque pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Parlons maintenant de la pastorale des chemins de Saint-Jacques. Il en existe deux dans votre diocèse et plusieurs séries de réunions vont être organisées d'ici quelques jours. J'aimerais qu'on fasse un petit peu avec le point avec vous de ces chemins de Saint-Jacques.
Oui, alors ces chemins de Saint-Jacques, c'est une opportunité pour l'annonce de l'Évangile, puisque le pape nous dit, il encourage à aller aux périphéries, mais là c'est les périphéries qui passent chez nous. Alors il s'agit de saisir l'occasion pour témoigner de ce que nous vivons, de notre foi, et par notre charité, c'est ainsi qu'on peut témoigner de sa foi. Et alors, cette pastorale des chemins de Saint-Jacques, elle a été fondée il y a peu de temps finalement, on l'a organisée il y a une douzaine ou une quinzaine d'années, avec comme responsable laïque Madame Mijot, et maintenant c'est un jeune couple, très très jeune retraité, Emmanuel et Véronique Delors, qui animent cette pastorale. Et justement, au début de l'année, là, puisque les pèlerins partent maintenant avec le printemps, il y en avait quelques-uns qui circulaient en hiver, mais enfin c'est plutôt rare. C'est maintenant qu'on commence les grands départs. Alors, Emmanuel et Victorie et Véronique invitent les personnes qui sont sur le chemin et qui sont des accueillants à se réunir pour prendre des consignes, se ressourcer aussi et voir ce qu'on peut faire. Il y a par exemple une réunion prévue à Auch, demain à Auch. Et puis le 1er avril à Marciac, à l'Isle-Jourdain, à Condom, à Eauze, à Lectoure, les centres qui sont sur les chemins de Saint-Jacques pour précisément se rencontrer et affiner un peu nos possibilités
Oui.
et nos projets d'accueil.
Oui. On
Alors,
s'aperçoit,
les...
il y a du travail quand même, excusez-moi Père André, mais il y a du travail parce
Oui.
que beaucoup de gens qui faisaient les chemins de Saint-Jacques avaient pour vocation au départ quelque chose de religieux, de prière, mais aujourd'hui c'est aussi quelque part un peu un changement hein, de direction. Beaucoup même de personnes athées font ces chemins de Saint-Jacques. Comment on les accueille et comment on leur fait comprendre aussi que ces chemins de Saint-Jacques, ce n'est pas un lieu de promenade?
Mais par un accueil sympathique de chrétiens, justement, au départ, c'est surtout ça. Hein. Certains n'ont jamais eu de contact avec l'Église, ou n'en ont plus depuis longtemps. On est préjugés contre l'Église, contre la foi, contre Dieu lui-même. Eh bien, le fait d'être accueilli de façon sympathique, sans que ce soit une pression pour les faire changer d'idée et les convertir à tout prix, un accueil très, très agréable, très humain, et ça les touche et je vois que ça donne des résultats. Parce que, bon, on arrive à Compostelle, on enregistre officiellement 350 000 pèlerins par an, à peu près, les dernières années. Mais quand on leur demande leur motivation, il y a la moitié à peu près qui ont des motivations religieuses. Bon, les autres, c'est la culture ou parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que même celui qui part pour une randonnée sportive, pour accomplir un exploit ou par tradition, entrer dans les chemins de Saint-Jacques, c'est bien, ça se fait. On est marqué. Je vois à l'arrivée, moi j'ai fait souvent longtemps l'accueil à Compostelle, l'accueil de ceux qui arrivent, des pèlerins qui arrivent, on voit que même des incroyants, je ne dis pas qu'ils sont convertis, mais ils sont touchés, ils ont réfléchi. La marche silencieuse fait que, on revoit pas mal de problèmes et il y en a qui ont vraiment changé leur vie à partir de l'arrivée de Compostelle. Je vois une dame qui m'a dit, je peux plus continuer à vivre comme ça. En rentrant, je change de métier, par exemple. Voilà. Un autre qui m'a dit, mais j'ai accompagné mon beau-frère parce qu'il pour qu'il soit pas tout seul, mais je vais me confesser, ça me fait reprendre contact avec la foi. Des choses comme ça. Des gens qui, au départ, bon, ils partaient pour une randonnée presque. Hein. Et alors, ça les marque. Et alors, ces personnes qui passent dans le diocèse, là, ils croisent des gens de chez nous, et il s'agit que nous fassions quand même quelque chose qui leur rapporte, autant que possible, quelque chose. Hein. Alors, voilà, c'est le but de ces rencontres qui sont prévues, de préparer les accueillants, les hospitaliers, on les appelle les hospitaliers, hein, à être vraiment attentifs à l'accueil, à faire un accueil chrétien. Un accueil chrétien, alors c'est pas forcément obligé à la prière, non, non, mais d'abord un accueil chrétien, que les églises soient ouvertes. C'est déjà énorme. Une église ouverte, accueillante, dans laquelle on trouve un papier, un petit document, une phrase d'évangile. Un document en rapport avec le chemin de Saint-Jacques. Voilà, autant de choses qui peuvent aider. Puis d'abord, alors, ça arrive dans certaines paroisses, il y a des gens qui sont présents, des chrétiens qui sont là, qui accueillent, tout simplement, qui font visiter, qui font remarquer les beautés, parce que des beautés, dans le diocèse, il y en a, des beautés architecturales ou autres. Alors, ils font découvrir tout ça. Il y a des échanges qui se créent. Et parfois, on offre un verre d'eau, ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour un marcheur. Voilà, accueil chrétien. Puis alors, il y a l'accueil aussi de ceux qui ouvrent leur maison pour des pèlerins qui veulent dormir, passer la soirée, prendre un repas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Toujours dans la liberté, en respectant la liberté de chacun, sans qu'il y ait pression du point de vue religieux, absolument. Hein. Alors, on va réfléchir là-dessus lorsque on va se rencontrer là demain à Auch et puis des jours suivants dans les différents centres du diocèse. Remarquez, nous avons donc deux chemins qui traversent le diocèse. Hein. Il y a le chemin du Puy, le Puy Angelais, qui
oui.
Il arrive du côté de Lectoure, chez nous, à Saint-Antoine, Lectoure, Condon et Oze, et il sort à Aire-sur-Adour. Et l'autre chemin, c'est le chemin d'Arles, c'est-à-dire le chemin du Midi. Hein. Il nous aborde à Pujaudran, dit le Jourdain, Auch, il continue sur Marciac. Voilà. Alors ce sont quand même deux itinéraires qui se rejoignent avec d'autres à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais quand ils traversent le département, ben, qu'on puisse leur apporter quelque chose. Le diocèse est lié un peu au chemin de Saint-Jacques parce que nous avons un pionnier chez nous qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, l'abbé Georges Bernès, qui avait repris, parce que le pèlerinage était tombé un peu en désuétude, il n'était plus très pratiqué, ce n'était pas la mode. Et il a repris, dans les années 50, il a entrepris de faire un pèlerinage, lui, à pied. Mmh. Et il en est sorti, évidemment, enthousiaste, si bien qu'il a écrit le premier guide récent qui soit sorti en 1973, et il n'y a pas eu d'autre guide jusqu'en 1990. Donc, c'était le seul guide qui existait en français pour le chemin de Saint-Jacques. Et il avait un tel enthousiasme pour ces chemins que ça s'est communiqué un peu partout, et notamment dans le département. Alors, il se trouve que cette année, c'est l'année sainte. Donc, il devrait y avoir du monde. Le Covid avait mis le pèlerinage en veilleuse. Hein. Pendant 2 ans, là, ça marchait au ralenti. Si bien que l'année sainte, c'était l'an dernier. Année sainte, ça veut dire l'année où la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche.
Ah, d'accord, j'allais vous poser la question, voilà.
Et voilà. Et alors, en raison du Covid, comme peu de gens ont pu quand même l'an dernier entreprendre l'expédition, l'évêque de Compostelle, de Santiago, a prolongé pour que cette année 2022 soit encore une année sainte. Mmh. Alors la porte sainte, il y a une porte sainte à la cathédrale qui ne s'ouvre que pour ces années-là.
D'accord.
Et alors je vois, il y a des queues de 150 mètres de pèlerins qui attendent pour passer là et recevoir l'indulgence. C'est pas le fait de passer par la porte, mais il y a la prière, il y a les grâces qu'on peut recevoir avec tout ce qu'on peut faire de confession, communion, et prière, bien sûr. Donc un des saintes qui continue, qui risque d'attirer encore un peu plus de pèlerins, au moins des pèlerins chrétiens qui le savent.
C'est aussi une belle manière d'évangéliser ces chemins de Saint-Jacques, parce que beaucoup de personnes les font et se mettent en chemin par petits bouts pour certains, une année, un morceau,
ah oui.
Puis l'année d'après, souvent en famille, et qui permet aussi comme ça, à travers les expériences qu'ils vivent, et puis... Lorsqu'on marche, eh bien on pense, on réfléchit, on fait un point, on fait des fois même des retours en arrière, des points sur la situation.
Ah oui, ou alors...
Des introspections.
C'est ça, des problèmes qui s'éclairent. Je vois une autre dame, il y a 2 ou 3 ans, là, qui me dit que je ne devais pas venir à Compostelle, on devait partir en famille sur la Côte d'Azur. Et moi, j'étais sur le point de péter les plombs. J'en pouvais plus à cause du travail, de la famille, des gosses, des autres soucis. Et j'ai dit à mon mari, écoute, vous partez où vous voulez. Moi, je pars toute seule à pied à Saint-Jacques. Alors, en route, des choses se sont apaisées en elle. Elle a téléphoné à son mari plusieurs fois, etc. Si bien qu'à l'arrivée, elle était toute heureuse de me dire, voilà, quand je vais rentrer en France, je vais retrouver toute ma famille. Nous allons ensemble aller à tel endroit et... Elle était enchantée de la situation qui était pacifiée avec son mari et avec toute sa famille.
Oui.
C'est sûr qu'il y a des
petits
des
miracles.
Choses qui se passent.
Il y a des petits miracles, oui. On connaît tous des personnes qui sont très éloignées de l'Église et qui, à travers plusieurs périodes de ces chemins de Saint-Jacques, un chemin de conversion s'opère souvent.
Absolument, oui.
Oui, oui. Donc voilà, plusieurs réunions, vous nous disiez, donc, sont organisées voilà,
oui,
pour
oui.
Ce meilleur accueil, pour aussi faire passer ce beau message qui est celui des chemins de Saint-Jacques et de la religion.
Et c'est ça, oui, c'est ça.
Et de la foi.
Et justement, dans le Nouveau Testament, il y a une lettre de Saint-Jacques. Mais c'est pas ce Saint-Jacques-là. C'est pas un apôtre, l'apôtre qui a connu Jésus, c'est un autre Saint-Jacques. Mais cette lettre de ce Saint-Jacques-là dit bien que la foi, si elle n'est pas accompagnée par la charité qui se manifeste, c'est pas grand-chose. Montre-moi ta foi par tes actes, dit Saint-Jacques. Et je crois que c'est un moyen, là, par l'accueil, par la sympathie, l'ouverture, l'écoute, c'est un moyen de faire aider les personnes à reprendre contact avec eux-mêmes. Là, ils sont souvent en recherche d'eux-mêmes et de reprendre contact ainsi avec la foi, avec quelque chose qu'ils ont connu et qu'ils retrouvent ou qu'ils cherchaient même sans connaître encore.
Voilà, et eh bien écoutez, merci beaucoup Père André Meynier, voilà pour ces chemins de Saint-Jacques. Vous nous avez dit il y en a deux qui existent, oui, dans votre diocèse, diocèse d'Auch. Et puis merci aussi pour votre très beau témoignage concernant l'évêque, hein. On pourra bien sûr l'appeler bientôt Monseigneur Jean-Marc Mika, le nouvel évêque pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Très belle journée à vous et puis à la semaine prochaine.
Eh bien à la semaine prochaine et bon vent avec votre nouvel évêque.
Mais qui devrait, je pense, arriver très, très rapidement pour déjà, même si officiellement il sera nommé, qu'il sera officiellement donc évêque que à la fin du mois de mai, mais je pense qu'il prendra déjà ses fonctions.
Oui. Voilà. Ah, puis il connaît Lourdes déjà comme il faut. Ça, il est venu souvent.
Voilà. Merci beaucoup, Père André Meynier. À la semaine prochaine.
Au revoir, Philippe. Merci.
Au revoir.